Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je suis très heureux de rejoindre Radio Shalom Bourgogne et de vous présenter une toute nouvelle émission sur l'histoire et la civilisation britannique. Histoire d'Outre-Manche est une émission bimensuelle. Frédéric au pilotage et à l'animation, Élie à la technique. Ce programme se veut être culturel, instructif et divertissant. Notre voyage nous emmènera vers des repères historiques et à la découverte de personnages et de lieux plus ou moins connus qui ont marqué leur temps et la civilisation britannique. Nous évoquerons de jolis paysages verdoyants ou parfois aux apparences lunaires, des milieux urbains étonnants et détonnants. Notre parcours sera parsemé ici ou là d'anecdotes de celles qui font le sel de l'existence et de la mienne en l'occurrence. La Grande-Bretagne est ma passion depuis fort longtemps et j'ai à cœur de partager tout cela avec vous. Alors, êtes-vous bien assis? Avez-vous attaché votre ceinture? Ou êtes-vous confortablement calé dans votre fauteuil de croisière? Peut-être préférez-vous le train sous la Manche. Embarquement immédiat, c'est parti! Je dédie cette émission à mes parents, décédés récemment, et à ma famille proche. Là où sont mes parents aujourd'hui, je sais qu'ils me regardent et qu'ils pensent à moi. Je ne les oublie pas. J'ai également une pensée émue pour Christophe, qui nous a quittés le 23 avril. Pour ce premier numéro, d'abord un long témoignage, puis un survol de l'histoire du pays de Galles, des temps les plus anciens jusqu'aux chevaliers de la Table Ronde. Je vous emmènerai à la découverte de personnages plus ou moins célèbres et de paysages d'une beauté à couper le souffle, qui vous feront à coup sûr rêver. Je vous proposerai une initiation à la langue galloise à travers des chansons et des musiques fondatrices de cette culture. J'aime beaucoup remonter le temps. Aussi, je commencerai par témoigner, car voyez-vous, je n'ai pas choisi le pays de Galles par hasard. J'ai vécu et travaillé là-bas, dans la ville de Swansea, de septembre 1990 à juin 1991. J'étais alors assistant de langue française et étudiant à la faculté d'anglais à l'université de Bourgogne. Partir loin des miens était une première pour moi. Dans mes bagages, je transportais des émotions et un esprit fort aventureux. Porteur d'un handicap, agénésie aux quatre membres, je quittais Dijon avec des chaussures orthopédiques à lacets, aux pieds, sans savoir qui m'aiderait à mettre mes chaussures le lendemain matin. Vous en conviendrez, il fallait oser. Voyage en bus jusqu'au pays de Galles, 17 heures de trajet, me conduisent à la gare routière de Swansea. Sur la longue route, un passage par Victoria Station à Londres, où une hôtesse de voyage m'a appelé « Darling ». Émotion vive. Elle est amoureuse. Et non, elle qualifiait tout le monde du même petit nom tendre. Ce n'était donc pas que pour moi. L'ère des désillusions avait commencé. En posant mes valises en terre galloise, j'avais alors cette délicieuse envie de découvrir une autre culture dont les prémices m'avaient été apportées par de brillants professeurs d'université, à commencer par Gaby Boulet. Traversée du Severn Bridge, pont suspendu entre l'Angleterre et le Pays de Galles, qu'il ne vaut mieux pas tenter de traverser par grand vent. J'arrive à Swansea. Je prends un taxi pour les Uplands, un quartier chic et bourgeois, résidentiel de la ville. Il surplombe la mer. Oui, enfin, quand une épaisse couche de brouillard n'empêche pas d'admirer la vue. Je dois me présenter dans la rue qui porte le nom de CWMD Onkin Terrace. Lorsque le taxi arrive, je suis bien incapable de prononcer ce mot rempli de consonnes qui se suivent. Alors, tel un Bernardo des temps modernes, je présente le papier au chauffeur. Il se hâte de me transporter à bon port, sans pour autant m'expliquer le mystère de ce mot. Je comprends plus tard qu'en gallois, le W se prononce « ou ». Accueilli par Gren et Gladys, je prends possession de la petite chambre située au premier étage de la maison. Sans trop attendre, je m'assure que je n'aurai pas besoin de partir travailler en chaussettes le lendemain matin, faute de pouvoir faire mes lacets. Très vite, c'est une évidence. Mes logeurs sont formidables. Ils acceptent spontanément ma demande d'aide. Le lendemain, je pars travailler le cœur en liesse, conduit par Christopher, un des professeurs de français avec qui je travaillerai toute l'année. Avec son épouse Mandy, ils ont une petite fille de 7 ans, baptisée Caris, comme une caresse. Atteinte du syndrome de Reyes, une maladie rare, incurable, cette jolie princesse meurt malheureusement 2 ans plus tard. J'aurai beaucoup de chagrin à l'annonce de son décès. À Swansea, dans les Uplands, je jouis, cela dit, d'un privilège. Être invité régulièrement par Gladys pendant le tea time dans le salon pour regarder la reine Elisabeth II on TV. Gladys fait peu de cas des assistants qu'elle loge, mais moi, allez savoir pourquoi, je suis son petit chouchou. Pour profiter de ce moment d'échange et de complicité avec la maîtresse de maison, et aussi, je dois le confesser, savourer les petits cakes et le thé préparé à cette occasion, je réponds toujours oui à l'invitation et n'en rate pas une. Oui, quelque part, mon intérêt pour la reine était somme toute secondaire. 35 ans plus tard, je peux le dire, il y a prescription. Gladys était royaliste jusqu'au bout des ongles et galloise. Elle et son mari tenaient un magasin d'antiquités au centre-ville de Swansea, avec plein de beaux objets en porcelaine. Côté travail, ou plutôt passe-temps, 6 heures par semaine, est-ce encore du travail, j'exerçais la délicate activité d'assistant de langue française dans 2 collèges distincts et non mixtes, Menifbach Secondary School pour les filles et Penland School pour les garçons. Activité délicate car les jeunes me disaient à longueur de temps qu'en France, ils pourraient parler anglais partout. L'apprentissage de la langue française était pour eux secondaire. Ils ajoutaient pour me faire rire et sans doute, par conviction profonde, préféraient le gallois à l'anglais. Alors vous pensez bien le français. Une année d'immersion en terre galloise et j'ai expérimenté un système éducatif parfois très libéral. Les jeunes étaient mis face à leurs responsabilités et d'autres fois stricts et psychorigides. Les jeunes finissaient de toutes les façons par décrocher. Les enseignants faisaient leur possible, mais se retrouvaient face à des élèves très défavorisés. Ils vivaient dans 2 des quartiers les plus pauvres de la ville de Swansea. Je me souviens des maisons construites avec un soubassement en béton, mais dont les façades et les toits étaient recouverts de tôle. Ce n'étaient pas des bidonvilles, mais cela y ressemblait tout de même. J'ai le souvenir de filles mineures, à peine 14 ans, qui prétendaient travailler comme serveuses dans un pub au centre-ville de Swansea pour faire vivre leurs parents, et qui en réalité se prostituaient. Par curiosité, je me suis rendu un jour dans ce pub et j'ai vu de mes yeux le manège incessant des clients et de ces pauvres jeunes filles. Quelle horreur! J'ai quitté l'établissement avec la nausée, un véritable choc. Je n'avais pas compris cela en amont à l'école. Sans nul doute, l'uniforme ne laissait-il pas entrevoir la misère humaine cachée derrière? Mais comment la société pouvait-elle laisser des jeunes filles sombrer dans une telle déshumanisation? Croyez-moi, c'est un épisode qui marque une vie.
Il y a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup. vous. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant.
Vous êtes sur Radio Shalom Bourgogne et vous écoutez Histoire d'Outre-Manche. Bon, je garde toutefois de meilleurs souvenirs du pays de Galles. Avec Valérie, une collègue assistante bretonne, nous allions nous balader avec sa voiture le dimanche à la découverte des plus beaux paysages du sud et du centre du pays de Galles. Ainsi, nous avons visité le parc national du Brecon Beacons. Là, se trouvent des paysages à couper le souffle, à la beauté lunaire, des roches noires ou grises, sans végétation. Ajoutez du vent, un peu de pluie, et vous avez le sentiment d'être au milieu de nulle part. Oui, mais un beau nulle part. Les Brecon Beacons forment un massif montagneux à une altitude moyenne de 881 mètres. Ce massif paraît en fait lunaire, car il est situé au nord des vallées minières de Cardiff et de Swansea. Les Brecon Beacons intègrent au sens large la chaîne des Black Mountains. Quand on se promenait à l'époque en voiture, on devait parfois s'arrêter sur des petites routes, car un mouton couché ruminait là tranquillement. On engageait alors la conversation avec le ruminant et on lui faisait écouter cela. Par exemple.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down.
Le mouton swingait-il ? Bien sûr que non. Figurez-vous que tout cela le rendait impassible. Il décidait de se lever quand l'envie lui prenait, et alors nous poursuivions notre route. Oh oui, nos balades étaient belles. Premier voyage à l'étranger, soif de liberté, de découverte, alimentée par de si beaux paysages traversés. J'ai le souvenir des haies qui bordaient des petits chemins, à chaque virage l'inconnu avec cette particularité de conduire à gauche. Le temps passe toujours trop vite quand on est bien. Quand je pense que ces haies aux parfums bucoliques, romantiques, ont été détruites dans les années 2000, no comment. D'autres beaux moments, comme mon passage obligé au pub Le Quadron Gate, le mercredi, en rentrant de cours. Chaque semaine, steak and kidney pie, chocolate fudge cake with a fresh cream et half a pint of Guinness. À côté de moi, comme un rituel, cette dame d'un grand âge, attablée et qui sirotait, tenez-vous bien, a pint of Guinness. Elle m'accompagnait de son joli sourire de mamie épicurienne. Un jour, où il ne restait qu'une part de chocolate cake, on se les partageait. C'était trop sympa, des moments inoubliables. Le Pays de Galles, c'est aussi mes promenades en solitaire à la Swansea Marina, le port de plaisance de la ville. Les mouettes parlaient sensiblement le même langage qu'en France. Le vent faisait danser et teinter les mâts des bateaux. Des vaguelettes ou des plus grosses vagues venaient claquer contre les digues. Parfois, une petite bruine vous rafraîchissait le visage. Swansea, c'est une rencontre amicale et culturelle au Collège des filles de Minnefpar. Là, travaillait au self une prénommée Valerie. Elle portait mon plateau à la cantine, car je n'étais pas encore très adroit pour cela. Nous mangions souvent du coleslaw, une salade bien consommée en France aujourd'hui, avec des frites. Mais alors les frites galloises, c'est quelque chose. Croyez-moi, 5 frites et vous étiez rassasié. Le mari de Valerie était ouvrier, mais surtout, il était chanteur du plus célèbre des chœurs de voix masculines du Pays de Galles, à savoir The Morriston Orpheus Choir. Morriston, Treforys en gallois, est un quartier situé à 6 km au nord du centre-ville de Swansea, dans le comté du West Glamorgan. Ce chœur est mondialement connu, et durant mon séjour, j'ai eu l'immense plaisir de les écouter, de les rencontrer. Extrait de l'œuvre The Phantom of the Opera, All I Ask of You.
Let daylight dry your tears.
Swansea et mon home sweet home des Uplands furent aussi l'occasion d'une rencontre qui sortait de l'ordinaire. Disons que dans la même maison, il y avait des gens classés académiques, royalistes et bourgeois bien rangés, et un jeune couple qui versait dans la catégorie des artistes musiciens tourmentés et très imbibés. Gina, la fille de mes logeurs, et Tommy, le couple infernal. Ces derniers ne carburaient pas à l'eau de régime, croyez-moi. Peut-être voulaient-ils trouver l'inspiration. Ils étaient des personnages hauts en couleur, gentils, serviables. Ils dénotaient drôlement dans cette maison paisible. Avec mon amie Valérie, nous étions invités et nous dissertions dans leur mansarde. Ils avaient une vue imprenable sur la mer, mais la voyaient-ils vraiment ? Un verre à la main et dans les volutes de fumée d'une étrange herbe que je n'ai jamais goûtée, nous refaisions le monde. Non, je n'étais pas attiré par les paradis artificiels, juste j'accompagnais pour essayer de rester en phase dans un milieu un tantinet déphasé. C'était grisant quand même. Vous l'aurez compris, je partageais mes loisirs entre deux ambiances, monarchique et hystérique. Oh, je ne m'ennuyais pas. Bon, se moquer c'est bien, mais rendre hommage à la voix de l'artiste, c'est bien plus sympathique. Soyons charitables et je vous propose d'écouter ce gentil Tommy Jenkins. Le morceau Candy and Gore qu'il interprète est original. Les couplets sont chantés en anglais et le refrain en gallois. Candy and Gore, c'est l'histoire des marins au long cours qui quittaient leur port, leurs femmes, leur famille, sans promettre de revenir un jour au bercail. Candy and Gore signifie littéralement « lever l'ancre ».
Mein Fleck, der will im Hockey war, mein Kuss, die arme Kimbo, reine nie, besser gar nie, ja, wie kann ich gar nie an, oh, liebe Johnny, liebe, oh, liebe Johnny, liebe, for the voyage is done and the winds do blow, liebe Johnny, liebe. Le Meier, an ihm mein Kurs nie an der Kinder kam, well in etto geräußet die, wie kaum die Gabi an. Oh, liebe Johnny, liebe, oh, liebe Johnny, liebe, for the voyage is done and the winds do blow, liebe Johnny, liebe. My greasy cream and hasty glass, mein Kuss nie am Kempo, a ringing tin and canny bass, mi gaun mi godi an. Oh, leave a Johnny, leave her, oh, leave a Johnny, leave her, for the voyage is done and the winds do blow, leave a Johnny, leave her. Oh, leave a Johnny,
Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is done and the winds do blow. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is done and the winds do blow. Leave her, Johnny.
Bon. Bon, vous aurez compris que les couplets étaient chantés en gallois et le refrain en anglais. Je me suis juste un petit peu emmêlé les pinceaux. Mais que voulez-vous, quand on parle de quelqu'un d'aussi émouvant que Tommy Jenkins, voilà. Vous êtes sur Radio Shalom Bourgogne et vous écoutez toujours Histoire d'Outre-Manche. Après ce témoignage, si nous empruntions le chemin qui nous fasse voyager vers le pays de Galles historique. Pour commencer, quelques mots sur l'hymne gallois. Il porte le nom de « Land of my father », « Terre de mes ancêtres ». Oh, je ne m'aventurerai pas à le dire en gallois, je risquerais d'en ternir la beauté. Étrangement, cet hymne est récent, il date du XIXe siècle. Selon la légende, en 1856, et tandis qu'il se promène sur les rives de la rivière Rhonda, un jeune homme, James James, imagine un air de chanson. Lorsqu'il rentre chez ses parents, il fredonne cet air à son père et ce dernier en écrit les paroles. Au départ, la chanson s'intitule « Glan Rhonda ». Elle est interprétée la même année. Après avoir beaucoup gagné en popularité sur quelques décennies, « Land of my father » devient hymne national en 1874. Et évidemment, l'hymne officiel du Pays de Galles est et reste le « God Save the Queen » ou « The King », selon le monarque au pouvoir. L'hymne gallois est toléré dans les manifestations sportives ou culturelles. Pour vous faire découvrir ou redécouvrir cet hymne gallois, écoutons à nouveau « The Morriston Orpheus Choir » qui l'interprète. Magnifique hymne gallois que je dédie à mon beau-frère Michel, ancien rugbyman émérite et passionné de ce beau sport qu'est le rugby. Le quartier de Morriston est aussi célèbre pour la chapelle indépendante du Tabernacle, construite entre 1874 et 1877. Cet édifice domine visuellement le quartier. La chapelle a été décrite comme la cathédrale non conformiste du Pays de Galles. Autrement dit, les non conformistes étaient des chrétiens protestants qui ne se conformaient pas aux règles et aux usages de l'Église d'Angleterre. Ils se sont opposés jusqu'en 1914. Alors, Pays de Galles se dit Wales en anglais et Cymru en gallois, s'appelle C-Y-M-R-U. La première trace d'une présence humaine au Pays de Galles remonte à 230 000 ans. L'homme de Néandertal séjourne surtout dans le nord du pays. La période glaciaire qui s'ensuit condamne toute forme de vie possible, évidemment. Il y a 24 000 ans, on trouve la présence d'une femme. Sur la péninsule du Gower, côte sud-ouest du Pays de Galles, à côté de Swansea, les archéologues trouvent des restes d'ossements humains rougis à l'ocre. Une fois rassemblés, le squelette ressemble sans hésitation aucune à une femme. La couleur ocre donnera d'ailleurs à cette ancêtre lointaine le surnom de Dame Rouge. En 2011, toujours dans une grotte de la péninsule du Gower, sont identifiées des inscriptions qui témoigneraient des plus anciennes traces d'art rupestre de Grande-Bretagne. Nous sommes alors au Mésolithique, il y a 14 000 ans. Le Pays de Galles est resté indépendant durant de longues périodes de son histoire. Il a vécu néanmoins sous domination de l'Empire romain. D'ailleurs, les Romains ont établi quelques places fortes dans le sud du pays et dans sa partie occidentale. Ils ont bâti la grande forteresse de Caer Leon, où se trouve l'amphithéâtre le mieux préservé de toute la Grande-Bretagne. Le gallois, tant qu'à lui, vient du breton ou britonnique, qui était parlé en Grande-Bretagne au temps de l'Empire romain. Gallois et breton sont alors des langues très proches. Au début du VIe siècle, ces deux langues se séparent et évoluent différemment. Le vieux gallois fait son apparition et perdure jusqu'au XIIe siècle, où il sera remplacé par le moyen gallois, une langue proche du gallois moderne. Aujourd'hui, nous distinguons le gallois classique ou formel du gallois informel. Le premier est utilisé pour les documents officiels ou lorsqu'on s'adresse à un groupe. Alors, on pratique la langue au pluriel. De même, le gallois formel est pratiqué avec quelqu'un de plus âgé que soi ou une personne avec qui on vient de faire connaissance, en guise de respect. Le second gallois, le gallois informel, est celui des mails et des SMS. C'est le gallois familier, colloquial Welsh language, en quelque sorte. Pour entrer en immersion avec la langue, je vous propose d'écouter une chanson en gallois dans le texte, une mélodie douce, interprétée par Eve Goodman et intitulée « Dacu Engarliad ». La chanson raconte l'histoire d'un pauvre garçon qui attend désespérément sa prétendue amoureuse, sweetheart, qui ne viendra jamais. Mais dites-moi, ça ne vous rappellerait pas l'histoire d'une hôtesse de voyage croisée à Victoria Station ? Turum di rorum di rad little al Vous êtes sur Radio Shalom Bourgogne et vous écoutez toujours Histoire d'Outre-Manche. Après cette jolie parenthèse musicale, nous voilà transportés vers le haut Moyen-Âge. Et là, s'impose à nous la célèbre légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Pourquoi ? Pour des raisons à la fois géographiques, mythologiques et culturelles. Côté géographique, une grande partie des aventures légendaires du roi Arthur se déroule sur les terres du Pays de Galles. Par exemple, les collines de Badon Hill, les châteaux et forteresses comme Camelot, comme le château de Caer Leon, vous savez, cette importante forteresse romaine. Et puis, il y a le lac de Llyn y Fan Fach. Situé dans le sud du Pays de Galles, on raconte que la dame du lac serait sortie des eaux et aurait remis l'épée Excalibur à Arthur. Les montagnes de Brecon Beacon sont liées aussi à plusieurs légendes des chevaliers de la Table Ronde. Certaines pierres et lieux dans cette région sont supposés être des vestiges des batailles arthuriennes. Côté mythologique et culturel, Arthur pourrait être une figure semi-historique liée à la résidence celtique dans cette région de la Bretagne, Grande-Bretagne, également appelée Galles. Le pays des Celtes aurait été dans cette région le pays de Galles. Les premières mentions d'Arthur viennent des traditions galloises et celtiques. Par exemple, je pense à des poèmes gallois anciens comme « Igodofin » écrit par Aneryn. Le livre d'Aneryn est sans doute le texte le plus ancien de la littérature galloise. La plus ancienne version du manuscrit date du XIIIe siècle. C'est un récit du barde d'Aneryn, l'un des cinq poètes renommés parmi les Gallois au VIe siècle. La réputation de ce barde repose sur une seule œuvre, le Godofin, conservé dans un manuscrit qui date d'environ 1265. Pour évoquer la légende du roi Arthur, plaçons-le d'abord dans son cadre familial. Oh, une famille complexe et dont les intrigues sont dignes d'une bonne série américaine des années 80. Écoutez plutôt moi ça. Uther Pendragon est le père d'Arthur et il est le roi légendaire de Bretagne. Son épouse s'appelle Ygraine. Leur relation de couple est marquée par la magie. En effet, le célèbre Merlin l'Enchanteur aide Uther à séduire Ygraine en le transformant en son mari, le duc de Cornouailles. Arthur naît de cette union et malheureusement, il voit son père mourir rapidement. Le royaume est instable. Arthur hérite du trône en sa qualité de roi légitime, grâce à l'intervention de Merlin, il est toujours là quand il faut lui, hein, et grâce aussi à l'épée Excalibur, laquelle épée donne toute légitimité au roi. Ygraine joue un rôle important dans l'éducation de son fils. Elle est souvent représentée comme une femme noble, même si ses pouvoirs magiques lui jouent parfois de mauvais tours. On ne présente plus Merlin. Il n'est pas membre de la famille, mais néanmoins, il est omniprésent. Un peu comme un grand frère, dirait-on aujourd'hui. Merlin est le mentor d'Arthur. Oh, mais dites donc, vous savez quoi ? Arthur se marie ? Mais oui, et avec qui ? Avec Guenièvre, bien entendu. Elle est la reine de Camelot. Tout devrait bien se passer, ils pourraient vivre heureux, avoir beaucoup d'enfants. Oui, mais bon, Guenièvre ne tient pas en place. Et la voilà qui va batifoler avec Lancelot du Lac. Le désamour est là. Les conflits se multiplient et Arthur, le pauvre bougre, éperdument amoureux de sa Guenièvre, a du mal à avaler la couleuvre. Autrement dit, il y a du rififi chez les chevaliers de la table ronde. Cela est d'autant plus source d'inquiétude que Lancelot est un des chevaliers les plus célèbres. Lancelot reste loyal au roi, mais quand même, Arthur est profondément meurtri. Et comme si tout cela ne suffisait pas, voilà le neveu d'Arthur, Mordred, qui fait des siennes. Alors lui, il verse dans la traîtrise. Fils d'Arthur et de sa demi-sœur Morgane, ou bien neveu du roi, selon les récits. Mais oui, parce qu'il y a plusieurs versions. Hein. Ça va, vous suivez toujours. Cet individu, Mordred, est pour le moins un personnage complexe. Il aurait trahi Arthur et aurait revendiqué le trône. Ainsi va se dérouler la bataille de Camlann, au cours de laquelle Arthur et Mordred sont tous les deux mortellement blessés. Bien mal acquis, ne profite jamais. Morgane, oui, justement, Morgane. Dites la fée est une figure ambiguë, mystérieuse. Tantôt elle est présentée comme la demi-sœur d'Arthur, fille du Terre, et d'une autre femme. Ygraine a dû apprécier, n'est-ce pas? Selon les versions, elle aurait tenté de renverser son demi-frère. Parfois, on raconte qu'elle aurait été une fée ou une sorcière, avec l'influence de qui? De Merlin, bien entendu. En conclusion, loyauté, trahison, amour et rivalité pour le pouvoir sont le ciment de la mythologie arthurienne. Attendez, quand j'y pense... Camelot, Camelot, ça me dit quelque chose? Dans ce parcours légendaire, le roi Arthur aura mené 4 batailles importantes. La bataille de l'Excalibur permet à Arthur, jeune et inconnu, d'extraire l'épée Excalibur du rocher. Ainsi, il prouve sa toute-puissance. Il est le souverain légitime de la Bretagne. C'est le début de son ascension au pouvoir. Au cours de la bataille contre les Angles, Arthur aurait incarné un morceau de bravoure dans la défaite des Bretons contre ce peuple germanique qui veut migrer en Grande-Bretagne. Nous sommes alors au 5e siècle. La bataille de Badon Hill est sans nul doute la plus célèbre de toutes. Arthur aurait mené ses troupes à la victoire contre les Saxons. Ainsi, la Bretagne, Grande-Bretagne, était protégée. C'est le moment où Arthur réussit à unifier le royaume. Tout au long de son règne, Arthur aurait eu à conduire des combats contre les Saxons pour protéger son royaume et maintenir l'ordre en Bretagne. Arthur est souvent représenté comme un chef de guerre sage et stratégique. N'oublions pas non plus les batailles autour du Saint Graal. Ce Saint Graal, vous savez, c'est un objet légendaire décrit comme une coupe ou un calice magique. Le Graal est considéré comme un symbole de pureté, de sagesse divine et de salut. Lancelot et Perceval partent à la quête de l'objet car il est censé apporter la guérison, la prospérité et l'illumination spirituelle. La dernière des batailles aura été fatale pour le roi Arthur. Il s'agit de la bataille de Camlann. Arthur a péri, mais il a promis de revenir un jour. Enfin, un mot sur Perceval le Gallois. C'est un personnage emblématique de la légende arthurienne. Il est le héros du roman de Chrétien de Troyes, écrivain et poète, qui a vécu entre 1135 et 1190. Perceval est un jeune homme naïf, élevé à l'écart du monde. Il souhaite devenir chevalier et rejoint la cour du roi Arthur. Son parcours est jalonné par des épreuves initiatiques, notamment sa participation à la quête du Graal. Perceval doit surmonter son ignorance et ses erreurs pour devenir un chevalier accompli. Sa quête du Graal symbolise sa quête personnelle de rédemption et de sagesse.
Tu te rends bien compte que tu n'as rien compris là, Perceval?
Ouais, c'est pas faux. Au-delà de la célèbre épée Excalibur, je vous propose à présent d'écouter William Scheller.
C'est grand bonheur, mon noble père, de vous revoir si plein de vie. De retour sur vos nobles terres, devant vos fières compagnies. Après ces longues années de guerre, le ciel est témoin qu'aujourd'hui, c'est grande joie pour la ville entière d'ouvrir ses portes à grand bruit. Sont venues misère et longues nuits, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Sont partis nos frères, nos ennemis, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Dieu vous a gardé, qu'il en soit béni. Il a fallu tant de terre pour y creuser tant de lits, que des montagnes entières ne nous ont pas suffi. Mais il vous fallait tant de pierres pour faire des églises jolies. L'on chantait votre lumière, nous nous sentions si petits. Dans la forêt de vos bannières souffle un bon vent claquant de vie. Le soleil brûle vos gants de fer, c'est un grand jour que celui-ci. Mais permettez, mon noble père, que je vous laisse à tout ceci. La route est longue jusqu'aux frontières, je devrais voyager de nuit. Sont venues misère et longue nuit, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Sont partis nos frères, nos ennemis, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Dieu vous a gardé, qu'il en soit béni. Je m'en vais porter en terre, au fond de notre vieux pays. Diane la douce aux cheveux clairs, dont je ne sais trouver l'oubli. Elle dormira comme en prière, du plus beau marbre que l'on vit. Sous la plus belle des lumières, de vos églises si jolies.
Ainsi se termine cette émission pour aujourd'hui. Nous parlerons à nouveau du Pays de Galles, car je suis loin d'avoir épuisé tous les sujets. Un grand merci à Élie pour son aide technique. Au prochain numéro, changement de pays, changement d'époque, nous irons explorer l'histoire de la famille royale des Tudors et son environnement culturel. À très vite !